Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous. Plus de 9000 Tchèques participeront aux élections législatives à l'étranger. Les médecins généralistes seront en grève ce mercredi. La romancière canadienne Margaret Atwood reçoit le prix Franz Kafka 2017. Plus de 9000 Tchèques résidant à l'étranger se sont inscrits sur des listes électorales pour pouvoir participer aux élections législatives qui se tiendront les 20 et 21 octobre prochains. La majorité des électeurs établis hors de République tchèque se sont inscrits auprès des ambassades tchèques à Londres, à Bruxelles et à Paris. Quelques 109 bureaux de vote seront ouverts à cette occasion dans les différentes ambassades et consulats tchèques dans le monde et même par exemple dans la base militaire de Balat en Irak. Cette année, les Tchèques de l'étranger choisiront leurs députés parmi les candidats qui se présentent dans la région de Bohême centrale. Près de 7000 médecins généralistes, pédiatres et spécialistes fermeront leur cabinet ce mercredi. Ils veulent ainsi protester contre la bureaucratisation de la santé publique liée au lancement des ordonnances électroniques et contre une nouvelle directive qui ne prévoit pas une augmentation des remboursements des soins médicaux par les caisses d'assurance. Les médecins ont reçu le soutien des pharmaciens, une partie des 2800 pharmacies qui existent en République tchèque. Fermeront leurs portes mercredi matin pendant une demi-heure. Jiří Hynek a déposé ce mardi auprès du ministère de l'Intérieur sa candidature à l'élection présidentielle organisée au début de l'année prochaine en Tchéquie. Le président de l'Association de l'industrie de la défense et de la sécurité a indiqué qu'il était soutenu par 22 députés issus de 5 partis politiques différents. La plupart de ces élus seraient membres du comité parlementaire en charge des questions de défense. Jiří Hynek, 56 ans, est également membre du parti conservateur des Réalistes, dont il est l'un des membres fondateurs. Parmi les autres candidats à la présidentielle, on trouve pour l'heure l'actuel chef de l'État, Miloš Zeman, l'ancien président de l'Académie des sciences, Jiří Drahoš, l'homme d'affaires Michal Horáček, ou encore l'ancien ambassadeur en France, Pavel Fischer. Plusieurs dizaines de théologiens, d'évêques et de personnalités de la vie publique de 13 pays ont exprimé leur soutien au pape François dans une lettre ouverte. Celle-ci a été initiée par le prêtre théologien et professeur de l'université Charles Tomáš Halík, soutenu dans sa démarche par des centaines de personnes à travers le monde. La lettre réagit à la critique récemment formulée à l'encontre du pape par 62 conservateurs ecclésiastiques et laïcs. Ils estiment que la volonté réformatrice du pape, notamment dans les domaines du mariage, de la vie morale et de la réception des sacrements, est hérétique. Parmi les sympathisants du pape François qui ont réagi à cette accusation, on trouve l'évêque tchèque Václav Malý, ainsi que des hauts représentants de l'Église catholique en Autriche, en Hongrie ou encore en Afrique du Sud. La romancière canadienne Margaret Atwood, dont on connaît par exemple La femme comestible, La servante écarlate ou Le tueur aveugle, se voit décerner ce mardi à Prague le prix Franz Kafka 2017 remis par la société Franz Kafka et la ville de Prague. Désignée en mai dernier par un jury international, Margaret Atwood est l'auteur d'une quarantaine de livres de fiction, de recueils de poésie et d'essais critiques. Traduite dans plus de 50 langues, elle est considérée comme l'une des plus grandes romancière de notre temps. Côté météo, le beau temps devrait persister en République tchèque mercredi, jour de la fête des Lukács. Malgré la présence des nuages sur certaines régions, les températures varieront entre 12 et 16 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Alžbeta Rušková.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à vous tous, chers amis, et bienvenue à l'écoute de Radio Prague, une émission en français consacrée à l'actualité tchèque. Commençons par remercier Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. Ce mardi, nous parlerons tout d'abord de l'affaire dite du lithium qui porte sur un mémorandum signé par le ministre de l'Industrie et du Commerce avec la société minière australienne European Metals Holding à propos de l'extraction de ce métal au nord de la Bohême. Nous vous présenterons ensuite une nouvelle découverte des égyptologues tchèques à Aboussir, celle d'un temple du pharaon Ramsès II, et tout cela avant de passer à la deuxième partie de notre entretien avec la célèbre navigatrice française Isabelle Autissier, qui a présenté récemment à Prague son dernier roman « Soudain seul ». Bonne écoute à toutes et à tous. Réunie une dernière fois exceptionnellement ce lundi à quelques jours des législatives, la Chambre des députés a discuté de l'affaire dite du lithium, du nom de ce métal rare dont le pays dispose de réserves au nord de la Bohême, qui embarrasse depuis quelques semaines la social-démocratie. Les parlementaires ont demandé au gouvernement d'annuler le mémorandum signé par le ministre de l'Industrie avec une société minière australienne, estimant que ce document a aller à l'encontre des intérêts de la République tchèque. Pierre Meignan.
Les débats ont duré pas moins de 9 heures entre les députés. Beaucoup sont candidats à leur propre succession. Et logiquement, l'affrontement a souvent tourné au débat préélectoral avec de nombreuses passes d'armes, parfois assez éloignées du sujet du jour. Mais pour le ministre de l'Environnement, Richard Brabetz, du mouvement ANO, toute cette agitation est justifiée.
Ce remue-ménage tout à fait légitime a commencé par le fait que deux semaines avant la législative, un ministre du gouvernement tchèque de son propre chef signe un document aussi fondamental et vient ensuite nous dire qu'il n'est pas contraignant et que tout va bien. Mais le niveau d'hystérie de nos collègues de la social-démocratie montre bien que ce n'est probablement pas aussi clair que ça.
Le document fondamental en question, c'est un mémorandum portant sur l'exploitation du lithium au nord de la Bohême, signé entre le ministre de l'Industrie et du Commerce, le social-démocrate Jiří Havlíček, et la société d'extraction minière australienne European Metals Holdings. Le lithium est un métal rare, essentiel pour de nombreuses industries, en particulier pour le secteur en plein développement des énergies renouvelables. C'est donc une matière première stratégique et le Parti communiste a l'initiative de la session extraordinaire des députés estime qu'elle devrait rester dans le giron de l'État et ne pas être exploitée par une société étrangère. C'est ce qu'a exprimé le chef des communistes, Vojtěch Filip.
Le gouvernement ne dit pas la vérité. Le fait de signer ce soi-disant mémorandum avec une société qui dispose d'un prête-nom pour voler les réserves d'une matière première stratégique me semble écœurant et abject.
Les représentants du mouvement ANO, le parti d'Andrei Babiš, donné favori des législatives dans tous les sondages, n'hésitent d'ailleurs pas à parler, je cite, d'un vol commis par la social-démocratie. Les partis de l'opposition considèrent pour leur part également que la signature du mémorandum va à l'encontre des intérêts de la République tchèque, mais ils mettent en cause tout le gouvernement, mouvement ANO y compris. Du côté de la social-démocratie, la défense adoptée repose sur trois éléments. D'abord, ce mémorandum n'engagerait pas l'État tchèque. Ensuite, le ministre de l'Environnement, lui-même, un ministre ANO, suivait l'affaire de près depuis plusieurs années et était sensible aux velléités des sociétés minières privées. Enfin, surtout, il s'agirait d'une machination politique visant à faire diversion pour éviter d'évoquer des affaires touchant Andrei Babiš. C'est ce qu'a défendu le Premier ministre Bohuslav Sobotka.
Il faut détourner l'attention. C'est que les gens et les journalistes pourraient se demander comment est-il possible que deux hommes poursuivis par la justice puissent rester à la tête du mouvement ANO et de surcroît candidater aux législatives. Alors on utilise le scénario Wag the Dog, on crée l'affaire de lithium pour qu'elle remplisse les médias de telle manière qu'on ne parle pas de l'affaire de nid de cigogne.
Aby se nemluvilo o čapím hnízdu. Affaire du nid de cigogne dans laquelle Andrei Babich est impliqué. À l'issue du débat, les députés ont adopté deux propositions faites par les communistes. L'une demande tout simplement au gouvernement de déclarer la nullité juridique du mémorandum et l'autre de confirmer son caractère non contraignant afin qu'une entreprise privée ne soit pas tentée de porter l'affaire devant un tribunal d'arbitrage. Une autre proposition a été soutenue, défendue par le mouvement xénophobe de Tomio Okamura, pour que l'exploitation du lithium soit le fait d'une entreprise publique et que les bénéfices de cette activité profitent au budget de l'État.
Les égyptologues tchèques ont réalisé une nouvelle découverte importante. Une équipe de l'Institut tchèque d'égyptologie de la faculté de lettres de l'université Charles a en effet mis au jour sur le site d'Aboussir un temple oublié du pharaon Ramsès II. Le temple consacré au dieu solaire Ra est construit entre 1279 et 1213 avant Jésus-Christ et le premier est du genre construit par Ramsès II, aussi appelé Ramsès le Grand, sur les nécropoles de Saqqara et d'Aboussir. Ces sites archéologiques situés à environ 25 km au sud du Caire sont connus notamment pour les pyramides de différents pharaons de la 5e dynastie, soit environ 2500 ans avant Jésus-Christ. D'après le responsable de l'expédition tchèque à Aboussir et directeur de l'Institut tchèque d'égyptologie, Miroslav Barta, ces vestiges témoignent des activités religieuses et de construction unique du troisième pharaon de la 19e dynastie dans la région de Memphis, la capitale de l'Égypte antique durant tout l'ancien empire et cité importante tout au long de l'histoire égyptienne. L'enceinte mesure 32 mètres sur 51. L'entrée du temple était assurée par un pylône, une porte monumentale encadrée de deux tours et bâtie en briques crues. Derrière le pylône se trouvait une grande cour qui donnait sur une petite cour et deux bâtiments servant de dépôt. D'après Miroslav Barta, il s'agissait néanmoins tout d'abord d'un édifice religieux.
Les dépôts n'étaient pas situés à l'intérieur du temple, mais dans ses proches environs. Ils servaient pour stocker des offrandes utilisées pour les cultes, mais aussi l'équipement du temple, des outils en pierre et en métal, des vases, de la céramique, des tissus, etc.
L'ensemble du temple comprend également un sanctuaire en pierre divisé à l'époque en trois pièces séparées. C'est là que les égyptologues ont découvert de nombreux fragments de différents reliefs peints et gravures prouvant la présence de Ramsès II. Pour Miroslav Barta, ces trouvailles sont une source d'informations très précieuses et qui pourraient aider d'une part à se faire une idée plus précise des décorations du lieu, d'autre part à identifier la fonction du temple et à mieux dater sa création. Les égyptologues ont pour l'instant passé deux saisons à explorer le site.
Chaque saison s'étale sur 4 à 5 semaines. Pour l'instant, nous avons fouillé et documenté une grande partie du temple. Dans les mois à venir, une équipe d'experts examinera et interprétera les objets trouvés.
La trouvaille a été une vraie surprise, c'est ce qu'a encore indiqué l'égyptologue Miroslav Barta pour la télévision tchèque.
Les temples n'étaient généralement pas construits dans les nécropoles. Nous étions donc très surpris parce que le temple est érigé à l'emplacement de tombeaux qui avaient été construits 1200 à 1300 ans avant la création du temple. Nous étions au courant de l'existence d'une grande structure sur ce lieu grâce aux images satellites et aux méthodes géophysiques, mais nous ne nous doutions pas qu'il s'agirait d'un temple de Ramsès II.
Les dernières prospections du temple se sont déroulées en septembre dernier. La découverte n'a toutefois été révélée au public que dimanche dernier suite à l'autorisation du ministère égyptien des Antiquités. Les égyptologues tchèques qui possèdent une concession sur le site d'Aboussir où ils mènent leurs recherches depuis les années 1970 jouissent d'une renommée mondiale. Leurs découvertes sont souvent mentionnées par différents médias tchèques et étrangers. Parmi les plus importantes, la trouvaille du tombeau d'une reine pharaonique jusqu'alors inconnue, l'épouse du pharaon Néferefré Kankaus III, a été cité parmi les 10 plus grandes découvertes archéologiques de l'année 2015, selon le magazine spécialisé en ligne Heritage Daily. En 2013, le magazine avait également mentionné une autre découverte de cette même équipe de Miroslav Barta, celle de la sépulture d'un médecin en chef des pharaons. C'est donc, chers amis, la fin de ce fait événement. Merci de votre attention. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague et on passe à la deuxième partie de ce programme qui se poursuit avec la rubrique Panorama.
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 Suite de l'entretien avec la navigatrice française Isabelle Autissier, de passage récemment à Prague à l'occasion de la sortie en tchèque aux éditions Argo de son dernier roman « Soudain seul » sélectionné pour le prix Goncourt en 2015. Dans quelle mesure son livre, qui raconte l'histoire d'un couple d'amoureux partis faire le tour du monde, qui se retrouvent brutalement confrontés à eux-mêmes et à la nature sur une île déserte quelque part entre la Patagonie et la Cap Horn, est-il inspiré de son vécu de marin? C'est une des questions auxquelles Isabelle Autissier a répondu au micro de Guillaume Narquet.
Je pense pas l'avoir vécu, en tout cas évidemment pas de la même façon que les héros du livre. C'est vrai que, par contre, quand on est en mer, qu'on soit seul d'ailleurs ou qu'on soit une petite communauté humaine, on est loin des autres hommes. Donc on est loin des règles des autres hommes. Et à la limite, on peut se recréer ses propres règles à l'intérieur du bateau, encore une fois, qu'on soit seul en équipage. Donc là, effectivement, on peut toucher du doigt à la fois l'importance d'avoir des règles, et en même temps, le côté parfois dérisoire, ou parfois, après tout, pourquoi cette règle plutôt qu'une autre, hein, la réflexion qu'on peut avoir sur, finalement, pourquoi est-ce qu'on est dans ce système plutôt qu'un autre. Donc oui, ça c'est des choses qu'on ressent, auxquelles on peut penser. Je crois qu'il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que quand on est en mer, on est effectivement loin de la société des hommes, loin des côtes, des villes, et on est plongé dans un monde de nature. On n'a pas d'autre horizon que les vagues, le ciel, éventuellement quelques oiseaux ou parfois quelques baleines, mais on est vraiment, pour le coup, là, dans l'élément naturel.
Votre livre raconte aussi la relation entre cette femme et cet homme qui vivent seuls, qui se retrouvent seuls sur cette île. Certes, ils sont amoureux, mais ils se découvrent. Est-ce que la solitude à deux est identique à celle lorsque l'on est seul ?
Sûrement pas. Pour une raison très simple, c'est que même si on n'est que deux, il y a quand même un autre. Et par rapport à l'autre, on a toujours, tous, une mise en scène, une façon d'exister pour le regard de l'autre, ou contre, si on veut s'opposer. Mais en tout cas, on fait déjà société à deux. En solitaire, c'est pas le cas. En solitaire, je peux pas tricher avec moi-même. Moi, je sais où j'en suis, et j'ai personne pour me contredire ou pour m'applaudir. Il y a que mon regard à moi. Il y a que ce que je vis à un moment donné. Donc c'est quand même deux choses assez différentes. Ce qui m'a intéressé et pourquoi j'ai choisi un couple, parce qu'après tout, je peux écrire ce que je voulais. D'ailleurs, j'ai pensé à faire une histoire avec un groupe. Ce qui m'a intéressé, c'est que je voulais partir d'une relation extrêmement forte. Donc, ce sont deux personnes qui s'aiment vraiment, foncièrement, qui sont vraiment amoureux l'un de l'autre. Et comment cette relation va petit à petit se déliter, se décharner sous les coups de boutoir, au fond, de la réalité, de la souffrance, de la peur, de l'angoisse de l'avenir, puisqu'ils ne savent pas où ils vont, et comment petit à petit va s'établir, surtout pour Louise d'ailleurs, hein, ce dilemme entre je reste, quelque part je me sacrifie, je continue à le soutenir alors que lui va mal, ou est-ce qu'à un moment donné j'essaye de sauver ma peau et d'aller chercher un hypothétique secours pour le secourir, mais au fond quand même, au fond du fond, c'est l'instinct de survie. Au fond du fond, c'est ça. Je lui fais choisir un des deux chemins. Mais je n'en tire pas une philosophie générale. Je pense que dans la vie, d'ailleurs on serait bien incapable de dire, je ne sais pas si en lisant le roman vous vous êtes interrogé sur ce que vous feriez à sa place, mais je pense qu'on serait incapable de le dire au fond. Tout comme on serait incapable de dire est-ce que je donnerais des informations sur la torture ou que sais-je. Enfin voilà, il y a des questions auxquelles tant qu'on n'est pas confronté à ça, on ne peut pas y répondre. Et je pense que chez les êtres humains, il y a eu des réponses différentes. Il y a des gens qui ont été capables de mourir pour laisser la vie à des proches. Et puis, il y a des gens qui, à un moment donné, ont dit non, voilà, que l'instinct de survie a été plus fort et qui ont accepté d'abandonner ou de laisser sur le chemin d'autres êtres. Je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Je dis simplement que, voilà, que c'est une question forte et que c'est une question qu'on peut retrouver d'ailleurs de manière peut-être moins aiguë dans un certain nombre de situations, peut-être pas de la vie quotidienne, mais de situations de la vie réelle d'un certain nombre d'entre nous. Jusqu'où est-ce que, par exemple, je vais m'opposer à une injustice si j'ai peur d'être moi-même mise en cause jusqu'au, enfin voilà, toutes ces questions-là, au fond, elles se posent aussi concrètement.
Vous pensez que c'est cette question de conscience qui interpelle les lecteurs et fait aujourd'hui, par exemple, que vous êtes à Prague pour la traduction de votre livre en tchèque dans un pays qui, pour un peuple pour lequel la mer finalement se limite aux vacances sur les côtes, sur les bords de la mer Adriatique ou Méditerranée et qui ne connaissent pas Isabelle Autissier.
Oui, d'abord, je pense que ce n'est pas du tout la peine de savoir que j'ai eu une vie de navigatrice pour lire ce roman, et que je pense qu'il y a une forme de parabole derrière, comme souvent les romans, d'ailleurs. Les romans ne veulent pas toujours juste raconter une histoire ou donner des préceptes, des conseils ou des directions sur une situation précise. Un roman, normalement, pour moi, il renvoie à une communauté de pensées, d'émotions. Si vous écrivez un roman d'amour, vous pensez que tout le monde va le comprendre parce que la grande majorité d'entre nous a été à un moment donné amoureux ou amoureuse, donc avec qui on peut, à travers le roman, partager ça. Ça ne veut pas dire que si vous racontez l'histoire de je ne sais pas quoi, moi, d'une infirmière amoureuse de son médecin, il n'y a que cette situation qui existe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné, oui, il y a un côté, parabole, donc ce n'est pas seulement l'histoire que je raconte, c'est ce à quoi ça renvoie chez chacun d'entre nous qui peut, à ce moment-là, faire sens et être partagé.
En quoi vos deux Robinson sont-ils différents des Robinson que l'on connaît de la littérature ? Alors, mis à part que vous les placez dans un environnement moderne.
Oui, dans une île froide, il n'y en a pas beaucoup. Et en couple, je ne connais pas beaucoup de littérature de Robinson de couple, en fait. Il y a eu, en Robinson solitaire, il y a eu des exemples, d'ailleurs, de très grands écrivains. Il y a eu quelques histoires de groupe, mais bizarrement, d'ailleurs, pas de couple. Alors que je pense que pour moi, je vous dis, j'ai un peu tourné autour de l'idée, mais après, ça m'a paru évident que le couple était, en tout cas, du point de vue du ressort romanesque, tout simplement, déjà très fort, et puis du point de vue de l'interrogation aussi sur nos couples, les couples que nous pouvons fermer avec nos compagnes ou nos compagnons, que ça avait du sens.
Justement, c'est un couple, un homme et une femme. Vous faites le choix, en tant qu'auteur, de faire survivre la femme. Pourquoi ?
Alors, on m'a dit que c'était un roman féministe. Bon, non tact. Je ne l'ai pas écrit pour ça, mais pourquoi pas ? Ça ne me dérange pas. Je pense quand même profondément que ça m'a paru plus naturel, parce que je pense que globalement, je ne veux pas tomber trop dans des généralités, mais je pense que globalement, les femmes sont plus résilientes. Pourquoi ? Parce que la vie est plus dure. C'est plus compliqué. Y compris dans nos sociétés qui ont quand même maintenant déjà beaucoup, beaucoup évolué. Et ça reste quand même un peu plus compliqué d'être une femme et de s'affirmer en tant que femme et de faire ce qu'on veut en tant que femme et d'être reconnue et d'être... Je ne parle même pas de l'Arabie Saoudite. Hein. Donc je pense que dans des situations comme ça, j'ai tendance à penser que, entre guillemets, elles sont plus dures au mal. Et qu'en l'occurrence, ça va lui servir. Ça va lui permettre de résister, de tenir. Et c'est le mot résilience me plaît bien. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas faire de généralité. J'aurais pu faire le contraire. Et puis en même temps, du point de vue du roman, là encore, ça aurait été presque plus attendu. C'est-à-dire que l'homme, il est plus costaud, il est plus... Il est censé être plus décidé, plus agressif. Donc se débrouiller mieux, surtout dans une situation de nature. Et au final, c'est le personnage qui a l'air, en plus, c'est une petite nana un peu menue, un peu, qui a l'air un peu fragile comme ça. Et puis finalement, c'est un ressort romanesque aussi, c'est elle qui s'en tire mieux.
Et donc, autre question qui peut se poser, est-ce que l'histoire aurait été différente au-delà de la situation de la relation amoureuse si on avait été en présence de deux hommes ou de deux femmes?
Très certainement, ça aurait été différent. D'abord parce qu'il y aurait peut-être, mais là, on arrive dans le domaine de l'imagination, il y aurait peut-être eu assez vite une certaine forme de rivalité entre deux hommes ou entre deux femmes, d'ailleurs. Et la solidarité ne serait pas construite du tout de la même façon. Il y aurait peut-être une forme d'empathie, peut-être, mais sûrement très différente. On peut imaginer, par exemple, que ces deux personnages, à ce moment-là, auraient assez vite, par exemple, pas pu cohabiter et se seraient un petit peu éloignés chacun dans son truc. Je pense que oui, de fait, la situation a été différente.
On ne va pas évoquer la suite du livre parce qu'il faut quand même le lire, il faut que les auditeurs le lisent. Dernière chose quand même, votre style d'écriture, je le qualifierais d'efficace. Des phrases courtes, on va à l'essentiel. Une phrase, c'est un fait. Et l'action se déroule finalement assez vite. C'est un livre que l'on lit en quelques heures. C'était voulu par rapport à l'histoire de vos deux héros, qui eux aussi sont contraints d'en revenir à l'essentiel, à ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes, à ce côté animal qu'on a évoqué, qui est enfoui en nous et qui a peut-être disparu, mais qu'eux sont obligés de retrouver pour survivre. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux, ou alors c'est simplement votre style d'écriture?
Alors c'est sans doute mon style d'écriture, mais oui, et je pense que c'est important pour moi que le style colle avec le rythme du récit et avec le type de récit. Moi je lis beaucoup, j'aime pas trop les écritures bavardes, si vous voyez ce que je veux dire, où on se gargarise soit d'adjectifs dans tous les sens, soit de phrases qui paraissent très belles mais qui n'en finissent plus et qui sont on a l'impression que c'est fait pour passer mon expression, puis c'est de la copie quoi. J'aime pas trop ça. C'est vrai que j'aime bien les écritures directes. Je crois que à l'idéal, je trouve que chaque phrase du roman devrait pouvoir exister pour elle-même, quoi, et avoir à la fois une efficacité peut-être, mais aussi une musicalité, mais aussi quand j'écris, je me relis souvent à voix haute pour être raccord avec ce que je fais. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a un rapport entre le style et ce qu'on raconte.
C'était donc la navigatrice française Isabelle Autissier qui a parlé de son roman Soudain seul. Et c'est également la fin de ce programme qui vous a été présenté par Alžbieta Ruškova. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site de Radio Prague au www.radio.cz/fr ainsi que sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy!